Tehila, chapitre 2. Colossiens 2, nous allons lire les 10 premiers versets. L'apôtre inspiré de l'Esprit de Dieu dit ces choses pour l'Église de tous les temps, en parlant aux croyants à Colosse. Je veux en effet que vous sachiez quel grand combat je soutiens pour vous, et pour ceux de Laodicée, et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage, afin que leur cœur soit consolé, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine certitude de l'intelligence, pour connaître le mystère de Dieu Christ, en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants, car si je suis absent du corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la solidité de votre foi en Christ. Et voilà la partie qui nous concerne ce matin. Ainsi, comme vous avez reçu le Christ Jésus, le Seigneur, marchez en lui. Étant enraciné, ayant été enraciné et fondé en lui, affermi dans la foi, d'après les instructions que vous ont été données, et abondon en action de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie selon la tradition des âmes, selon les principes élémentaires du monde et non selon Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité et vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute principauté et de tout pouvoir. Il y avait dans l'église de Colosse des gens convaincants, mais erronés, qui étaient bien d'accord que c'est Christ Jésus qui est le Sauveur et que c'est par lui que nous entrons en relation de paix avec notre Dieu. Mais il disait que Christ vous donne le départ, mais pour arriver à la plénitude, il vous faut autre chose. Donc pour eux, la vie chrétienne était Christ, oui, plus quelque chose d'autre. Et l'apôtre Paul a eu un grand combat. Le mot combat vient de la racine qui nous donne le mot agoniser. Il agonisait parce que le danger, si jamais vous êtes la proie de quelqu'un qui vous enseigne une espèce de Christ plus, le danger est immense. Et c'est pour cela que nous étudions cet épître. Parce que je n'ai aucun doute que nous sommes tous enclins à aller vers une variété de Christ plus. Le diable le veut plus que toute autre chose. Parce que s'il peut nous dévier quelque peu de Jésus-Christ, il nous a déviés de toute la source de notre salut. Donc, nous allons essayer de comprendre les quelques versets devant nous, surtout le verset 6 et le verset 7, que je vais vous relire. Dans une version un peu plus littérale. Donc, je commence là, au verset 6. Ainsi, comme vous avez reçu le Christ, Jésus, en tant que Seigneur, marcher en lui, ayant été enraciné en lui, et vous édifiant maintenant continuellement en lui, vous affermissant dans la foi d'après les instructions qui vous ont été données et abondant en actions de grâce. Le premier point que vous avez sur la feuille, c'est que la marche chrétienne s'opère selon le même principe que la conversion chrétienne. On continue comme chrétien de la même manière dont on est devenu chrétien. Parce que, n'est-ce pas, Paul le dit, il dit, comme vous avez reçu le Christ, ainsi marchez en lui. Et donc, il est vital que vous compreniez de quoi Paul veut parler. Comme vous avez reçu le Christ, mais quel aspect de la manière de recevoir Jésus est la clé pour continuer avec Jésus? Et donc, réfléchissons un peu. Si vous êtes chrétien, vous avez entendu l'évangile, vous avez compris votre état de coupable devant Dieu, le Dieu qui vous a fait, le grand juge saint de l'univers, votre tort. Et vous avez entendu et compris que ce Dieu plein d'amour a envoyé vers vous un sauveur qui a tout accompli sur la croix, qui a pris les péchés des âmes sur lui, qui en a payé la peine. Et vous avez compris dans l'évangile que, vêtu de l'évangile, Jésus est venu vers vous. Quand vous avez entendu l'évangile, ce n'est pas simplement un message qui est venu vers vous, c'est la personne du message. Et Calvin le dit comme ça, Jésus, vêtu de l'évangile, vient nous appeler et il dit, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Et vous l'avez fait, vous êtes venu à lui. Et comme Paul le dit ici, comme vous avez reçu Christ Jésus le Seigneur, ou plus exactement, en tant que Seigneur. Alors, il faut que vous sachiez que Paul parle de Jésus des centaines de fois dans ses épîtres, dans le Nouveau Testament. Parfois, il dit Jésus. Parfois, il dit Christ Jésus. Parfois, il dit Jésus-Christ. Quelquefois, il dit le Seigneur Jésus-Christ. Et une seule fois, il dit ce que nous avons dans ce verset. Une seule fois, il dit Christ Jésus. Et puis, l'article le Seigneur. Et les grammariens nous disent qu'il est en train de mettre en accent, en emphase, le mot « Seigneur ». Et que nous devrions comprendre le sens comme ceci, comme vous avez reçu Christ Jésus en tant que Seigneur. Si vous êtes chrétien, vous avez reçu Christ comme Seigneur. Alors, 2 Corinthiens 4, 5, en effet, dans notre prédication, ce n'est pas nous-mêmes que nous annonçons, mais Jésus-Christ comme Seigneur. Et vous l'avez reçu comme Seigneur. Maintenant, je fais une petite parenthèse. Il y a quelques jours, je parlais avec un couple chrétien qui me parlait de leurs enfants dont certains sont chrétiens marchant bien avec le Seigneur et d'autres ne vivent pas du tout pour Christ. Et ce couple m'a dit au sujet de ces derniers qu'ils ont reçu Jésus comme leur sauveur mais pas encore comme leur Seigneur. Alors, comme je ne connaissais pas du tout ce couple, j'ai mordu ma lèvre. Je n'aurais pas dû, j'aurais pu quand même les aider à comprendre qu'il n'est pas possible de recevoir Christ comme sauveur et pas Seigneur. Vous ne pouvez pas le diviser en deux. Jésus ne sauve qu'en étant Seigneur. C'est seulement parce qu'il est maître de tout qu'il peut sauver. Et donc, c'est pour cela que Paul dit, en parlant aux chrétiens de Rome, il dit, en effet, nul de nous, donc il parle de tous les chrétiens, nul de nous ne vit pour lui-même, nul ne meurt pour lui-même, car si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur, soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur, car Christ est mort et il est revenu à la vie pour être le Seigneur des morts et des vivants. Est-ce qu'il est ton Seigneur? Mais vous avez probablement un malentendu dans votre esprit en ce moment. Parce que quand je dis Seigneur, vous pensez patron. Jésus est mon patron. C'est une partie de ce que ça veut dire, mais là, vous détruisez l'évangile complètement si ce n'est que ça. Quand on dit que Jésus est Seigneur, ça veut dire Seigneur qui sauve, pas Seigneur qui exige simplement, comme si vous pouviez fournir quelque chose. S'il est Seigneur, il doit être celui qui donne ce qu'il exige. N'est-ce pas? Sinon, vous êtes, excusez-moi, vous êtes fichu. Je vais essayer de vous expliquer ça, mais il n'est pas le Seigneur qui se tient là et qui vous demande de faire quelque chose, mais il est le Seigneur qui vient tout donner et tout faire afin que vous puissiez être ce qu'il veut. Il est le Seigneur de tout salut. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui tout a été créé, ce qui est dans le ciel et ce qui est sur la terre, visible et invisible, les principautés, les pouvoirs, les souverainetés, tout a été fait par lui et pour lui, et il est avant toute chose, et en lui tout subsiste. Il est la tête du corps, de l'Église. Il est le commencement. Il est le premier-né entre les morts, afin d'être en tout le premier. De l'alpha à l'oméga, Christ est maître de la création et du salut, enfin de tout. Donc, si vous avez reçu Christ comme Seigneur, comme Paul le dit, comme vous avez reçu Christ Jésus comme Seigneur, qu'est-ce que ça signifie exactement? Parce que c'est ce principe qu'on va utiliser pour marcher en lui. Je vous ai perdu? Ça va? Ok. Je vais vous donner quelques exemples physiques d'un salut physique. Ce n'est pas le salut spirituel, mais ça va nous aider un peu quand même. D'accord? Ok. Donc, un jour, Jésus vient aux disciples marchant sur l'eau. C'est la nuit. Ils sont dans un bateau au milieu du lac. Et la Bible nous dit que, donc, ils ont pris peur. Et puis, Jésus a dit, « Soyez en paix, c'est moi. » Et Pierre lui répondit, je lis dans l'évangile de Matthieu, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Pierre est toujours comme ça. Il fait n'importe quoi sans réfléchir. Mais, et Jésus dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Parce que Jésus lui en donnait la puissance pour le faire, n'est-ce pas? Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, « Qu'est-ce que tu aurais crié ?» Il s'écria, « Seigneur, sauve-moi. » Jésus peut le sauver de ces éléments de la nature parce qu'il en est Seigneur. Seigneur, sauve-moi. Vous avez reçu Christ comme Seigneur, le Seigneur de ce qui vous empêchait d'être à Dieu, le Seigneur de tout ce qui vous amenait loin du Seigneur, le Seigneur maître au-dessus de votre culpabilité, de votre corruption, enfin de tout. Les eaux troublées de votre âme, il peut aussi les calmer. Deuxième exemple. Donc Jésus s'approchait de Jéricho, un aveugle a été assis au bord du chemin et mendiait. Entendant la foule passer, il demanda ce que c'était, on lui dit que c'était Jésus de Nazareth qui passait par là. Il cria, parce qu'il savait qui Jésus était, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Ceux qui le marchaient devant lui le reprenaient, le reprochaient, lui disant de se taire. « Arrête-toi de crier à Jésus, il n'a pas le temps pour toi. » Mais Jésus s'étant arrêté, ordonna qu'on le lui amène, et quand il se fut approché, il lui demanda « Que veux-tu que je te fasse ?» Il répondit « Seigneur, que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit « Recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. » Maintenant, dans ces deux cas de salut, quel était le principe qui a lié ces deux hommes nécessiteux, Pierre s'enfonçant dans l'eau, et l'aveugle dans son aveuglement, quel était le principe par lequel ils ont reçu Jésus comme leur sauveur? Tout simplement, c'est par une foi qui voit en Jésus le seul sauveur suffisant, le sauveur seul et le sauveur suffisant de leurs problèmes. Pierre ne regarde pas vers trois personnes, « Aidez-moi, je m'enfonce dans l'eau !» Il n'en a pas besoin, il regarde juste Jésus, parce qu'il sait que Jésus tout seul peut le sauver et personne d'autre ne peut y contribuer. L'aveugle ne dit pas à Jésus plus d'autres personnes, « Imposez-moi les mains et guérissez-moi !» Il ne veut que Jésus. Et fils de David, on le reproche. Moi, je veux personne d'autre, fils de David. Vous voyez, quand vous venez à Christ, vous venez par une foi qui voit que en lui et lui seul est tout le seul. C'est ça. Recevoir le Christ Jésus comme Seigneur. Si vous vous rappelez de votre conversion, c'est exactement ce qui s'est passé dans votre vie, n'est-ce pas? Vous avez compris que Christ, en lui habitait toute la divinité, c'était Dieu le Fils, devenu homme, portant tout le poids du péché lui-même et expiant tout le péché tout seul. Et vous n'avez des yeux pour personne d'autre, pour ainsi dire. Et par une foi qu'on appelle en théologie sola fide, par la foi seule en sole Christus, sola Christus, je pense, le latin je ne connais pas, Christ seul, par la foi seule en Christ seul, vous avez été sauvé. Vous avez commencé, vous avez reçu le Christ. Et Paul est en train de dire que votre marche chrétienne doit se poursuivre par cette même attitude. Pour tout ce que je dois devenir et faire en tant que chrétien, je n'ai des yeux que pour Jésus-Christ. Il est le début et la fin de mon secours, de ma sagesse, de ma sanctification. Il a été fait sagesse, sanctification et justice et rédemption pour moi, comme Paul dit ailleurs. Comme vous avez reçu le Christ comme Seigneur, ainsi marchez en lui, ayant été enraciné en lui, et maintenant continuellement construit ou édifié en lui, selon les instructions qu'on vous a données. Voilà le premier point. Le deuxième point du sermon. c'est que les faux enseignements nous éloignent de la foi, de cette foi en Christ seul comme principe de la marche chrétienne. À Colosse, ces faux enseignants déviaient le regard et la foi et la dépendance des gens de Christ seul pour leur faire dépendre en partie des anges, des expériences un peu mystiques et toutes des habitudes ascétiques, des pratiques ascétiques et des philosophies humaines. C'est un cocktail. Il y a Christ et puis il y a tout ça. J'ai reçu un email la semaine passée d'un jeune homme que je connais depuis quelques années et qui m'a abordé il y a un an au sujet d'un livre écrit par une sorte de, on va dire, psychologue chrétien, qui fait justement un peu de mélange entre le christianisme et autre chose. Et moi, je l'ai exhorté un peu de faire attention à cet auteur que je connais. Mais il est complètement épris, c'est le mot, hein. Il est épris de cet auteur. Et donc il m'a écrit après un an. Je n'ai rien entendu de lui, il ne vit pas en France. Et il m'écrit comme ceci, je vais vous citer juste une petite partie. Cela ne me pose pas de problème que des théories sur l'inconscient sont issues de Freud, si elles me paraissent sensées et pas antibibliques. En gros, je ne suis pas contre, sans avoir vraiment étudié le sujet, je ne suis pas contre d'avoir des apports de la psychologie moderne tant qu'elles sont en accord avec la Bible. Ok, c'est vrai qu'il parle souvent du besoin de sécurité, de la signifiance, ce qu'on lui reproche à théologie de besoin. Bon, je ne vais pas vous expliquer tout cela, mais le problème de ce jeune homme est que il n'est pas en train d'avancer en étant épris de Jésus-Christ, en apprenant à connaître le Christ mieux, en voyant en lui et sa sagesse et sa parole et ses moyens de grâce tout ce qu'il lui faut. Maintenant, son cœur, c'est pas juste son intellect, mais son cœur se dévie un peu, se délecte un peu en autre chose. Et je ne dis pas que tout est complètement faux dans ces autres sources, mais ces choses sont dites d'une manière détachée, divorcée du Christ. C'est ça le problème. Et le deuxième problème que je vois, c'est qu'il pense qu'il peut grandir en tant que chrétien par des principes psychologiques. Or, toute bénédiction du chrétien qu'il fait avancer est une bénédiction tachée de sang. C'est-à-dire, tout ce qui me bénit et me fait avancer découle d'une croix. Et si tu me donnes quelque chose qui peut me être donné sans la croix du calvaire, des principes de Freud, alors ça va pas me bénir. Cela a coûté Jésus-Christ, la croix du calvaire, pour me faire bénéficier de toute bénédiction du salut. Troisième point. Marcher en Jésus comme sauveur, comme Seigneur. Nous l'avons compris maintenant, c'est cette foi en Christ seul qui voit en lui le début et la fin du salut. Cela implique quatre choses que nous voyons dans les participes de Paul dans le verset 7. Regardez bien. Paul dit dans le verset 7, ayant été enracinés en lui, numéro 1, vous édifiant continuellement en lui, numéro 2, vous affermissant dans la foi d'après les instructions qui vous ont été données, numéro 3, et abondant en actions de grâce, numéro 4. C'est comme ça qu'on marche en Christ, par cette foi en Christ, comme le Seigneur, le début et la fin du salut. Donc, on veut rapidement essayer de comprendre. Numéro 1, le fondement, ayant été enraciné en lui. En fait, le verbe en grec, dans votre version, il dit juste enraciné en lui. Pourquoi? Parce que ça fait couler le texte mieux en français. Donc parfois on a plani, les traducteurs aplanissent à cause d'un problème commercial. C'est que si tu veux vendre les Bibles, il faut que ça se lise bien. Il faut pas que ça heurte. Je ne dis pas que c'est simplement commercial, c'est plus que cela, mais c'est difficile de traduire une langue dans une autre langue. Mais littéralement, il dit que nous marchons Christ comme Seigneur, ayant été enracinés en lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous voulez marcher en Christ comme Seigneur, il vous faut un fondement. Et ce fondement est déjà posé. Maintenant, nous avons une métaphore. Vous le voyez, c'est quelle métaphore? Ayant été enraciné en lui. C'est la métaphore de la plante dans le sol, n'est-ce pas? Et c'est une métaphore parfaite pour décrire le fait que si vous êtes chrétien, quelque chose vous est déjà arrivé, vous avez été uni à Christ, et cette chose va être la seule source de tout ce qui suit après. Parce que quand vous plantez une graine, une plante dans le sol, à partir de ce moment, c'est ce sol qui va être la source de toute sa nutrition, n'est-ce pas? Il va pas aller ailleurs. Il est enraciné là et ça signifie que sa vie va être déterminée par ce sol. D'accord? Et votre vie va être déterminée par Jésus-Christ. Vous avez été enraciné en lui et vous n'allez pas bouger et vous n'allez tirer rien d'ailleurs. Ça va? Jésus n'est pas le début de la vie chrétienne, il est la sphère de la vie chrétienne. Il est le sol de la vie chrétienne. Alors, ensuite, il y a deuxièmement une progression. Le deuxième verbe est dans le présent continu en grec, c'est un temps de verbe que nous n'avons pas en français, mais on pourrait le traduire vous édifiant maintenant continuellement en lui. Quand vous lisez en grec le texte, il y a presque un choc entre le premier verbe et le deuxième verbe. Ayant été enraciné en lui, et maintenant vous édifiant continuellement en lui. On voit deux choses très différentes. D'accord? Alors, Martin Luther a dit ceci. Chers amis, la vie chrétienne est un présent continuel. C'est une progression qui ne s'arrête jamais. On n'arrive pas ici-bas. D'accord? Ce n'est pas un point d'arrivée. C'est un pèlerinage. Et c'est pour cela que Martin Luther a dit avec beaucoup de sagesse, cette vie chrétienne n'est donc pas justice, mais croissance dans la justice, n'est pas santé, mais voie de guérison, n'est pas être, mais devenir, n'est pas repos, mais exercice. Nous ne sommes pas tout ce que nous serons, mais nous grandissons vers cela. Le processus n'est pas terminé, mais il avance. Je traduis. Ce n'est pas la fin, c'est le sentier. Tout ne brille pas encore de gloire, mais tout est en train d'être purifié. Alors, reposez-vous là-dedans, dans le processus. Il dit, vous édifiant continuellement en lui. Alors, vous êtes chrétien, vous êtes en train de construire une personne renouvelée à l'image de Dieu. Et vous devez construire en lui, par lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ta pensée a besoin de transformation, ta perspective? Ta manière de réfléchir. Eh bien, Colossiens 3,16, que la parole de Christ habite en vous avec sa richesse. C'est en lui que vous progressez. Est-ce qu'il y a des choses que vous ne comprenez pas encore? Eh bien, Colossiens 2 dit que nous devons connaître le mystère de Dieu, Christ en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et la connaissance. C'est en lui que nous progressons. Est-ce que tu as besoin de paix dans ta conscience, puisque tu es encore pécheur? Ou de paix avec les autres, harmonie? Colossiens 3 dit, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Ou bien Éphésiens, maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix. Vous progressez en lui. Tu pèches? Que fais-tu avec tes péchés? Si quelqu'un a péché, 1 Jean 2, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste, il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés. Est-ce que tu as besoin d'un exemple pour imiter et pour t'inspirer pour ce que tu dois devenir? Eh bien, Jésus dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes en m'imitant moi. C'est formidable, n'est-ce pas? Nous progressons en construisant en lui. Est-ce que tu as besoin de quelque chose de bien dans le futur pour être ton espérance? Colossiens 3, 4, quand le Christ, qui est votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Christ est ce que vous, Christ en tant qu'homme, il est ce que vous allez être. Cette humanité nouvelle est déjà existante, mais vous ne le voyez pas. Vous ne le voyez pas en moi, pas complètement, ni en vous. Mais quand il paraîtra dans sa gloire, le Fils de l'homme, il vous rendra comme lui-même. Voilà une espérance formidable. Voilà un nouvel âge. Voilà une nouvelle humanité. Voilà un nouveau monde. Mais c'est en lui qu'en Christ, Paul dit en Colossiens que votre vie est cachée en Dieu. Et quand Christ paraîtra, Christ qui est votre vie, vous paraîtrez tel que vous allez être. Est-ce que vous avez besoin d'apprendre à prier mieux pour progresser en tant que chrétien? Est-ce que vous avez besoin d'accès, d'un vrai accès à Dieu, à la présence de Dieu dans la prière? Eh bien, Hébreux 10, ainsi donc, frères, nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus. Et nous avons un souverain sacrificateur, Jésus, établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc par son sang, par son intercession en tant que sacrificateur. Vous avez un accès auprès de Dieu. Donc, nous progressons en lui. Dernière chose. As-tu besoin d'être protégé? As-tu besoin qu'on prenne soin de toi? Je parle sur le plan spirituel, protection d'attaques spirituelles. Et que quelqu'un prenne en main complètement ta vie spirituelle et ton développement, parce que tu n'arrives pas toi-même. Philippiens 1. Et ce que je demande, dit Paul dans ma prière, c'est que, pardon, je cite le mauvais passage, car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes, Christ. Il est devenu maintenant le berger. C'est lui qui prend soin du troupeau. C'est pas le troupeau qui prend soin de lui, de lui-même. Christ a pris en main votre développement, votre protection, le soin de votre vie. C'est formidable. Comme vous avez reçu le Christ en regardant qu'à lui pour le pardon, ainsi marcher en lui. Et cela est une entreprise qui se passe ensemble. Si vous voulez marcher en Christ comme Seigneur et tirer de lui, il va vous bénir et vous changer aussi à travers ce qu'il fait dans les autres. C'est pour cela que Colossiens dit, au lieu de s'attacher aux chefs, ces faux enseignants, par qui tout le corps soutenu est rendu cohérent par les jointures et les articulations grandit d'une croissance qui vient de Dieu. Nous sommes un corps et moi j'ai besoin de l'apport que vous pouvez me donner une autre articulation ou une autre partie du corps, n'est-ce pas, pour m'aider. Et le Christ, il est le début et la fin de la vie chrétienne, mais ce n'est pas directement de lui que vous allez tout recevoir. Écoutez-moi, il y a des gens qui ont une vie chrétienne trop individualiste. Ils comprennent mal ce que nous voulons vous dire lorsque nous disons « c'est le Christ seul que vous recevez tout ». Oui, c'est du Christ seul, mais pas toujours directement de Christ seul. Parfois, je reçois de mon frère quelque chose que Christ veut me donner. Et il va obliger que je reçoive certaines bénédictions comme ça, pour qu'on soit interdépendants. Parce qu'il est en train de construire une famille d'amour. Et donc, c'est ça le processus. Ok, beaucoup plus rapidement, je termine en disant les deux dernières choses. Il y a un fondement enraciné en lui, il y a un processus édifié de plus en plus en lui. Troisièmement, il y a un moyen. Affermi dans la foi d'après les instructions qui vous ont été données. Affermi, rendu solide dans la foi. La foi, ce n'est pas le fait de croire. La foi, c'est l'enseignement biblique. D'accord? C'est objectif, c'est les instructions. Ça veut dire tout simplement ceci. Si vous allez marcher en Christ comme Seigneur et le connaître comme la source de votre salut, ben, il faut que vous connaissiez la Bible. Bien. Bien. Du début à la fin. Car Jésus dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole. Vous avez besoin du livre de Lévitique et de l'Ecclésiaste, de 2 Corinthiens et de l'Apocalypse. Dans cette église, comme dans toutes les églises, on a plusieurs réunions. Pour une raison. Nous allons faire le cathé cet après-midi. Les dames ont une étude. Il y a une cellule à Aix. Il y a d'autres moments d'enseignement. Et imaginez que pendant 10 ans, vous êtes fidèle tant que vous pouvez. Il y a des empêchements aussi. Mais tant que vous pouvez, vous voulez être affermi par les instructions qui vous ont été données. Pendant 10 ans, si vous ajoutez, si vous êtes dame, l'étude des dames, le cathé, la réunion de prière, en plus du culte, vous avez des centaines et des centaines d'heures d'instruction que vous avez reçues qu'une personne qui ne vient qu'au culte ne reçoit jamais. Et en tant que pasteur, je vous assure que je n'ai jamais vu un chrétien mûr et solide et fructueux qui se contente du régime minimum de l'Église, qui ne vient qu'au culte. Je suis désolé, je ne suis pas en train de vous manipuler du tout, mais je vous exhorte de bénéficier. Et je comprends que vous ne pouvez pas être là toutes les fois, et je ne garde pas un registre, c'est pas mon rôle, c'est le Seigneur qui va votre mettre. Nous sommes dans une liberté chrétienne, mais pour votre bien, connaissez la Bible, connaissez la théologie, apprenez. C'est ce troisième aspect de marcher en Christ le Seigneur. Dernier aspect, c'est qu'il y a non seulement un fondement, un processus, et un moyen, mais il y a aussi une disposition ou une atmosphère de la vie chrétienne quand on marche en Christ comme Seigneur, regardant que vers lui. Quelle est cette atmosphère? Paul dit que c'est abondant Nous sommes en train d'abonder en action de grâce. Alors, cela est vraiment intéressant parce que Paul nous dit que la caractéristique principale du peuple de Dieu, c'est qu'ils sont dans la joie et dans de la reconnaissance, et c'est justement le signe qu'ils sont entrés dans le nouvel ère, dans le nouvel âge, dans cette vie céleste qui commence déjà un peu par terre. Toute manière de vivre la vie chrétienne qui n'abonde pas en actions de grâce est une manière qui a perdu de vue Christ comme le Seigneur, le début et la fin suffisant du salut. Comment est-ce que nous pouvons dire « Le Seigneur est mon berger, mais je manque de plein de choses » N'est-ce pas ? Nous avons perdu quelque chose là, n'est-ce pas? Et quand Paul dit que nous abondons en action de grâce, il veut dire que le chrétien qui marche en Christ comme le Seigneur de tout, il n'est pas préoccupé par lui-même, ni par ses problèmes, ni par ses circonstances, ni par ce qu'il n'a pas encore. N'est-ce pas là notre problème souvent? Nous allons bien et puis un problème vient. Et nous regardons les problèmes et nous sommes tout irrités parce que telle chose se passe. Et là, nous ne sommes plus en train de marcher dans la foi en Christ comme celui qui est suffisant au milieu de ces problèmes. Il nous les envoie, parce qu'il veut que nous connaissions comment nous pouvons, pas seulement dans une vie de rose, marcher dans la foi avec lui, mais dans une vie où ça ne va pas, trouver qu'il est suffisant, n'est-ce pas? Et donc, cette marche avec Christ comme Seigneur, c'est une marche où ce qui nous préoccupe le plus, ce qui nous semble le plus grand, dans ta vie, en cet instant, c'est pas ce problème, c'est pas ce dilemme, c'est ce gigantesque salut de Christ. Avec joie, rendons grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. N'est-ce pas? Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Chapitre 1 encore. Vous étiez autrefois étrangers, ennemis, par vos pensées, par vos œuvres mauvaises. Il vous a maintenant réconciliés par la mort dans le corps de sa chair. Pour vous faire paraître devant lui, saint, sans défaut et sans reproche. Ça, c'est gigantesque. Mon problème prend un peu sa mesure, sa petite mesure devant un truc comme ça. Dernier passage. Vous qui étiez morts par vos enfances et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui. En nous faisant grâce pour toutes nos offenses, il a effacé l'acte rédigé contre vous et dont les dispositions nous étaient contraires. Il a supprimé en le clouant à la croix. Oui, nous devons abonder en actions de grâce. C'est pas la santé, c'est la voie de guérison, mais vers une santé incroyable et certaine qui vient. L'enseignement des hérétiques à Colosse, c'était un enseignement de mécontentement, de manque de satisfaction. Ça prenait comme a priori, comme point de départ, que vous n'avez pas en Christ tout ce qu'il faut. Donc, regardons ailleurs. Et je vous dis que les sectes marchent sur cela. Ils vous manipulent à partir d'un point de manquement. Mais la Bible dit que nous devons abonder en grâce car nous avons tout en Christ. Ce tout, on ne peut pas le recevoir dans une seconde. Il faut une vie pour recevoir ce salut tout entier, une éternité. Mais nous avons tout en lui. Comme vous avez reçu Christ en tant que Seigneur, le début et la fin de tout ce qu'il vous faut, regardant ce que vers lui, ainsi marcher en lui. Nous allons prier. Je vous invite à la prière librement si vous voulez.